Je vais vous souhaiter une bonne année 2015. Je vais vous souhaiter, ma prière pour vous vraiment, c'est, je pensais à ça cette semaine, c'est que Dieu vous couvre de sa grâce en 2015. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, que Dieu vienne nous couvrir de sa grâce, de ses bontés, de ses bénédictions, qu'il vienne nous faire grandir en lui. Et cette année, on a à cœur de vous lancer un défi encore. On commence l'année 2015 avec une série Ecclésia. À travers cette série-là, on va s'adresser, on va regarder nos vies personnelles, individuelles, familiales, nos couples, nos foyers, mais aussi comme Église. Et donc, on veut vous revenir avec le défi, le même défi qu'on vous avait lancé l'an dernier, au début de 2014, je ne sais pas si vous vous rappelez, devenir tout simplement un peu plus comme Jésus. Et donc, c'est ça qu'on veut faire en 2015. On veut être un peu plus comme Jésus d'ici la fin de l'année 2015. Personnellement, individuellement, mais comme Église aussi. Et que les gens qui viennent nous visiter ici, les gens qui vont dans nos foyers, dans nos maisons, qui vont dans nos groupes de quartier, puissent sentir, puissent percevoir ce parfum de Christ qui est là. Cet amour qu'ils trouvent, qu'on trouve dans la famille de Dieu. Cette sainteté aussi, cette grâce, cette faveur de Dieu qui est présente. On veut l'expérimenter dans nos vies, mais toute l'Église aussi ensemble. Amen. C'est ça que vous voulez pour 2015, non? Alors ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner vers Jésus. On va commencer, si on veut devenir plus comme Jésus, par se tourner vers lui, aller l'écouter attentivement. Je vous invite à tourner tout de suite avec nous dans l'Évangile de Jean. On va lire une longue portion, on va lire tout le chapitre 8 ce matin. Alors tournez avec nous si vous avez vos Bibles. Vous pouvez suivre aussi à l'écran en avant. Mais on va prendre le temps de lire ce long chapitre afin d'être attentif, écouter Jésus lui-même nous parler et le laisser nous inspirer, le laisser venir nous rencontrer pour qu'on puisse désirer et être réceptif afin de devenir plus comme Jésus en 2015. Prions ensemble si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, comme on l'a chanté, comme on vient de le chanter, Seigneur Jésus, tu es notre rocher. Tu es notre appui. Tu es notre secours dans la tempête. Tu es notre ferme assurance, Seigneur, que le Père nous aime, que le Père nous chérit particulièrement, qu'il a préparé de bonnes œuvres pour nous en 2015. Tu es notre espoir que toujours nous avons accès, qu'on peut s'approcher de Dieu rempli d'assurance qu'il nous aime tendrement malgré nos manquements, nos faiblesses, nos péchés. Seigneur Jésus, non seulement es-tu notre assurance, mais tu es notre espérance, tu es notre modèle, Seigneur. Mon plus grand désir, ma plus grande prière pour chaque personne ici ce matin, chaque personne dans cette église, et j'oserais dire pour chaque personne dans cette belle ville de Longueuil, c'est que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Que les grandes qualités, la bonté, la beauté, la sainteté, la douceur, la fidélité, l'amour, la force, le courage, la patience, la douceur de Jésus-Christ soient formées en nous. Par la puissance de ton Esprit Saint, par ta grâce, par notre obéissance, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, en ce début d'année, à fixer les regards uniquement sur toi. Sur toi pour espérer et sur toi pour t'imiter, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin à t'écouter, quelle que soit notre histoire actuelle, Seigneur. Quoi que ce soit qui ait pu se passer en 2014, Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, viens les rendre réceptifs à ta sainte parole et que ton esprit vienne déjà éveiller, disposer nos cœurs à te ressembler, Jésus. Amen. Écoutons la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jean au chapitre 8, versets 1 à 59. Jean, chapitre 8, versets 1 à 59. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. » Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien, moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais où est-il ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père, répliqua Jésus. Si moi, vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi, pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller, et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, « Aura-t-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ses paroles, « Vous ne pouvez pas aller là où je vais? » « Vous, leur dit-il alors, vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu donc? » lui demandèrent-ils alors. « Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répliqua Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurais beaucoup à dire, beaucoup à juger. » Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. » Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? » « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. » Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'agit comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez. Car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est un menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, nous avons bien raison de le dire. Tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous, vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mes enseignements ne verra jamais la mort. Sur quoi? Les chefs des Juifs reprirent. Cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais? Serais-tu plus grand que mon père Abraham, qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie rien que la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. « Quoi? » lui dirent-ils, « alors que tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? » « Vraiment, je vous l'assure, » leur répondit Jésus. « Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple.
Merci Julie, cette belle lecture de la parole, tout un passage. Ma prière pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous en 2015, ma prière c'est qu'à la fin de l'année 2015, vous soyez un peu plus comme Jésus-Christ, un peu plus à son image, un petit peu plus, qu'il vous ait transformé à l'image de Christ. Un peu plus. Vous vous rappelez du défi qu'on avait lancé en 2014, au début de l'année 2014? On veut revenir avec ce même défi-là parce que c'est ça, grandir dans la foi. C'est ça, grandir dans la foi. Et vous savez quoi? Je suis convaincu que Dieu va répondre à cette prière-là. Je suis convaincu, si on est attentif, si nos cœurs sont moindrement ouverts à Dieu, qu'il va répondre à cette prière-là. Et qu'à la fin de l'année 2015, on va tous être davantage comme Jésus-Christ. Tout simplement plus comme Jésus. Tout simplement. Et tout ce qu'on fait ici dans l'Église, les prédications, les messages, les exposés bibliques le dimanche matin, lorsqu'on s'assemble pour célébrer Dieu, pour le glorifier, lorsqu'on se réunit dans les groupes de quartier, lorsqu'on donne des cours bibliques le dimanche matin, mais nos relations les uns avec les autres aussi, le fait qu'on veut aller prendre un café, être là les uns pour les autres, tout ça vise à vous aider à devenir un peu plus comme Jésus. Autrement, ça perd son sens. On cherche la gloire de Dieu en grandissant à l'image de Christ. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? On cherche la gloire de Dieu, vous êtes réveillés? en grandissant à l'image de Christ. C'est comme ça qu'on glorifie Dieu. Lorsque d'année en année, progrès par progrès, le caractère, la beauté de Jésus-Christ est formé en nous par son esprit. Et des fois, lorsqu'on regarde à courte distance, lorsque je regarde hier, ça se peut que je sois découragé. Lorsque je regarde 3 mois en arrière, ça se peut encore que je sois découragé. Mais généralement, après quelques années de vie chrétienne, lorsqu'on prend le temps de regarder ce que Dieu a transformé dans nos vies, on admet, on voit, on reconnaît que l'Esprit-Saint est en train de former Christ en nous. Des fois, il y a des années difficiles. Des fois, il y a des périodes de désert où on sent que notre cœur est résistant à Dieu, notre cœur est rebelle. Mais on continue, on persévère encore parce que l'Esprit nous soutient dans notre foi, nous garde. Jésus ne peut pas nous échapper. Et puis, à un certain moment donné, il y a un réveil spirituel qui se produit en nous. Oups, la sanctification, la transformation reprend du rythme, de la cadence. Et ma prière pour chacun d'entre vous, c'est qu'en 2015, il n'y ait pas de désert. Mais au contraire, que nos cœurs soient disponibles pour écouter ce que l'Esprit-Saint est en train de former en nous, ce qu'il est en train de transformer en nous. Alors, commençons par 2014, parce que je suis reconnaissant à Dieu. Vous savez, c'est un privilège lorsqu'on est une équipe pastorale, les pasteurs de l'Église. Il y a beaucoup de responsabilités qui viennent, c'est vrai, puis souvent les gens me saluent, puis tu sens comme qu'ils ont compassion de toute la responsabilité qui est sur nos épaules. Mais en même temps, on est à une place de choix. On est privilégié parce qu'on a une espèce de vue d'ensemble sur l'Église, parce que les gens viennent nous partager des bénédictions, l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans leur vie. Je reçois des fois des petits mots même anonymes. Je comprends pas, mais oh, anonyme, puis la personne est bénie, puis elle veut juste rendre la gloire à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. On est à une place de choix pour voir ça. Et vous savez quoi? Lorsque je regarde l'Église de l'Espoir, moi, je bénis Dieu. Puis, je parle quand même en connaissance de cause, ça fait 18 ans, au moins 18 ans que je sers l'Église ici. Donc, je la connais, cette assemblée-là, dans ses bons, dans ses mauvais moments, dans les périodes de désert, dans les périodes de grande bénédiction et de transformation où on sent davantage une plénitude de l'Esprit dans l'Église. Mais 2014, c'est un bon cru. C'est un bon cru, 2014. Pour moi, comme pasteur, c'est un très bon cru. Parce que j'ai été béni de voir ce que Dieu est en train de faire. Dans l'équipe de leaders, dans l'Église, les gens que Dieu a ajoutés à l'équipe sont une bénédiction incroyable. Mais de les voir grandir aussi, de voir leur disposition, leur humilité devant Dieu pour grandir, pour être des serviteurs pour l'Église, pour être là pour se donner pour leur famille, pour leur épouse. Des frères, des sœurs qui sont là semaine après semaine en train de se donner. J'ai été béni de voir des ministères où on a à cœur de bien faire les choses pour Dieu, on a à cœur de servir les gens, de prendre soin des gens, d'être là pour les gens autour de nous. Et j'ai été béni de voir ça. Mais plus encore, le grand nombre de témoignages qu'on a reçus de gens qui sont bouleversés, qui sont transformés, dont les cœurs sont touchés, dont les vies sont progressivement, petit à petit, transformées davantage à l'image de Jésus-Christ. Et on en a reçu des témoignages. J'ai entendu des dizaines, des centaines de personnes qui, un moment ou un autre, sont venus nous donner un témoignage pour dire « Dieu m'a touché, Dieu est en train de me parler, Dieu est en train de me transformer, Dieu est en train de me briser aussi, parce qu'il brise mes résistances, il me rend plus docile. » J'ai entendu des beaux témoignages comme ça. Je vous regarde et les visages me rappellent des témoignages. Ça, c'est toute une bénédiction pour nous. Et vous en avez entendu un grand nombre. Des personnes en 2014 ont connu Jésus-Christ. C'est absolument extraordinaire. Ils ont connu que Jésus-Christ n'est pas seulement un modèle, un grand messager, un grand sage, mais un sauveur personnel, un Seigneur. Des gens en 2014 se sont fait baptiser, se sont identifiés personnellement, publiquement à Jésus-Christ. Et un grand nombre d'entre vous, vous avez grandi en 2014. C'est toute une bénédiction pour moi comme pasteur et je remercie Dieu pour cela. L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Un des privilèges que j'ai comme pasteur, c'est d'être beaucoup en relation avec des gens d'autres assemblées, avec des pasteurs d'autres églises, d'être impliqué dans notre association d'églises. Simplement notre association, ici au Québec, c'est à peu près 90 églises. Et j'ai le privilège d'être soit dans des rencontres, des réunions où on échange, on discute de ce qui se passe dans les assemblées avec le ministère de Sola. Bien, c'est à peu près 500 églises qui sont rejointes à travers ça. Puis encore là, j'ai le privilège de jaser avec des gens. Et une grâce particulière, c'est à quelque part humiliant et réjouissant pour un pasteur lorsque je croise des gens et ils me parlent de l'Église de l'Espoir. Puis j'entends des bonnes choses. Lorsque mon frère Doug Vergent vient apporter le message de la parole ici, et que vous entend chanter les louanges de Dieu et qui m'écrit après dans la semaine puis qui dit « Merci Yannick de m'avoir invité, ça m'a fait du bien de voir cette assemblée-là, de l'entendre chanter, de voir la direction qui était donnée dans l'Église. » J'entends de bonnes choses de l'Église de l'Espoir. Et ce n'est pas un sujet de se glorifier. C'est humiliant quelque part de voir que Dieu peut faire de bonnes choses avec nous, non? C'est toute une bénédiction. Et j'entends de bonnes choses de l'Église de l'Espoir, puis pour moi, c'est une grâce, un encouragement. Alors, je veux vous encourager, en commençant l'année 2015, à prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans vos vies, dans votre foyer, dans votre couple, dans l'Église, dans vos ministères autour de vous, au travail, dans votre témoignage. Les bienfaits de Dieu, les bénédictions, cette semaine, j'ai marqué sur Facebook, j'étais en train de passer en revue les photos. Vous savez, avec nos appareils mobiles, c'est comme 3000 photos dans l'année, à peu près. Juste à moi, bon, certains de mes enfants sont crack complètement de la photo. 10 000 photos! Puis là, on passe à travers les photos. Puis on dit, OK, on va essayer de résumer l'année. Et vous savez quoi? Plus j'avançais, plus je bénissais Dieu. Je bénissais Dieu pour ses bienfaits, pour ses bontés envers ma famille, envers l'Église, envers moi. Et à travers ça, j'étais en train de passer en revue non seulement des bénédictions matérielles, parce que Dieu a pourvu, parce que Dieu a béni, parce qu'on a pu visiter le monde, aller à des endroits, rencontrer des gens, se faire de nouveaux amis dans la foi, mais aussi dans le monde aussi. Mais je revoyais les bénédictions spirituelles pour ma maison, pour mon foyer, pour mon épouse, pour moi. J'étais béni. Prenez le temps en ce début d'année de bénir Dieu, de remercier Dieu. Prenez un agenda, n'importe quoi qui va vous permettre de passer l'année en revue parce qu'on oublie tellement, tellement, tellement vite. On oublie. Mais là, quand on commence à passer l'année en revue, c'est vrai, il y a des moments d'épreuve, mais à travers ça, on voit la fidélité de Dieu, on voit ce que Dieu a travaillé dans nos cœurs, combien Dieu est en train de nous transformer. Prenez le temps de faire ça. Prenez le temps de remercier Dieu. Parce qu'en comptant les bienfaits de Dieu, on mesure la fidélité de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que Danny a dit tout à l'heure. Lorsqu'il a dit, prenez le temps de regarder en 2014, un attribut, une qualité de Dieu qui est comme sortie, qui est en relief lorsque vous regardez l'année 2014. C'est bon de faire ça parce que ça nous détourne de nous-mêmes puis ça nous ramène à Dieu. Et c'est ça que ça fait lorsqu'on prend le temps de faire ça. Ça nous aide à voir et à croire que Dieu est fidèle. Ça nous remplit de foi pour l'année 2015, de voir que Dieu est bon, de voir que Dieu est gracieux. Et j'espère que plusieurs d'entre vous, vous vous rappelez ce que vous aviez identifié, où vous vouliez travailler, où vous disiez, je pense que l'Esprit-Saint a commencé à me montrer un, deux domaines assez précis, assez spécifiques, où il veut me transformer en 2014 pour être plus comme Jésus. Prenez le temps de vous rappeler ça, de voir qu'est-ce que Dieu a transformé. Personnellement, je l'ai fait et je vois l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, pour me transformer davantage à l'image de Christ, dans ces domaines-là très précis. C'est bon de faire cet exercice-là. Ça nous amène à voir la fidélité de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez été fidèle pour prier pour ça, on va vous accompagner davantage en 2015. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va arriver même avec un support visuel, un petit carton que vous allez pouvoir glisser dans vos Bibles. Alors, pressez-vous pas trop pour répondre à quoi vous, comment vous voulez grandir cette année en 2015. Prenez le temps de regarder 2014. C'est important parce qu'on veut être attentif à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans nos vies. Alors, regardez 2014. Essayez de vous rappeler, de voir comment Dieu a travaillé. Est-ce que vous avez grandi dans ces domaines-là très précis où vous voyez que vous vouliez être davantage comme Jésus? Et regardez ce que l'Esprit est en train de travailler dans la dernière année. On les connaît. Si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, il me parle de bien des manières pour me montrer ce qu'il veut transformer. Et je suis convaincu. C'est pas un message pour vous motiver, là. Parce que mon espérance n'est pas dans l'homme, elle est dans l'Esprit de Dieu. Mais je suis convaincu qu'en 2015, il va continuer l'œuvre qu'il a commencée en nous. Vous connaissez ce beau passage dans Philippiens 1, les versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé. Peu d'hommes sur la terre ont connu la réalité du cœur humain comme l'apôtre Paul. Lui qui avait la charge de tant d'églises, qui a écrit des lettres comme la lettre aux Corinthiens, les lettres aux Corinthiens. C'était un homme profondément lucide sur la nature humaine. Mais Paul n'appuyait pas son espérance sur le cœur humain. Il connaissait Jésus-Christ. Il connaissait la bonté et la fidélité de Dieu. Et pour cette raison-là, il était persuadé que Dieu allait terminer, allait compléter cette œuvre qu'il a commencée. J'ai donc la ferme assurance que vous allez grandir en 2015. Parce que je connais l'œuvre que Dieu a commencée en vous, mais parce que je connais Dieu surtout. Parce que je connais Dieu surtout. Quand je regarde à Jésus, je ne réussis pas à perdre la foi qu'il va continuer l'œuvre qu'il a commencée. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Quand je regarde à Jésus, pas quand je regarde à moi, quand je regarde à Jésus, je ne réussis pas à perdre la foi qu'il va continuer l'œuvre qu'il a commencée. Quand je regarde à Jésus, j'en suis incapable. Jean 8, que Julie vient de nous lire, verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyez-vous, Jésus-Christ apporte sa lumière dans les ténèbres de nos vies. C'est ça que Jésus fait. Cette femme-là était aux prises avec une vie de ténèbres. Une vie brisée, brisée par le péché. Une vie brisée. Une vie confuse. Une vie où elle devait faire reposer sur elle-même toutes sortes de jugements. Et c'est cette société religieuse et bien souvent profondément hypocrite faisait reposer sur elle plein de jugements aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, évidemment, dans ce passage. Si cette femme est accusée d'adultère, ce n'est pas avec un fantôme qu'elle est accusée de l'avoir fait, n'est-ce pas? Donc, c'est assez incomplet comme accusation, on s'entend? Mais l'accent dans ce passage-là n'est pas sur l'hypocrisie de cette société religieuse. L'accent dans ce passage-là est sur les ténèbres de la vie de cette femme. Et ce que Jésus dit lorsqu'on arrive au verset 12, après les avoir confrontés, après les avoir confondus, après avoir donné cette parole de grâce à cette femme, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Un petit peu plus loin dans le passage, au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Lorsque je connais Jésus-Christ, lorsque je découvre qui est Jésus, je découvre qu'il est plus qu'un guide, je découvre qu'il est celui qui peut me dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas, comme à cette femme. » Celui qui soulève le poids de ma culpabilité, qui me permet de commencer une vie nouvelle en lui, lorsque je connais Jésus-Christ, sa lumière commence à pénétrer les ténèbres de ma vie. C'est ça qui se passe, non? Sa lumière commence à pénétrer les ténèbres de ma vie. Il y a un processus de libération. Il dit, celui qui garde ma parole va être affranchi. Il va être libéré. Et lorsque Jésus prononce cette parole sur cette femme, elle entre dans cette lumière-là. La lumière de Jésus-Christ commence à entrer dans sa vie où elle entre dans ce processus de libération. La culpabilité n'est plus là et Jésus vient progressivement la transformer. C'est ce que Christ a commencé à faire dans votre vie si vous avez cru en lui. Et c'est vrai, souvent, lorsqu'on regarde dans nos vies, lorsqu'on se regarde dans le miroir, lorsqu'on vit en société, lorsqu'on vit en famille, lorsqu'on est en relation les uns avec les autres, on a l'impression qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans nos vies. On voit beaucoup de ténèbres dans nos vies où on dit, mais la puissance, la beauté de Christ n'est pas là encore en train de briller. J'ai encore ces zones d'ombre. C'est pour ça que Jésus dit, « Va, ne pêche plus. » Parce qu'elle commence cette marche nouvelle. C'est pour ça qu'il dit, « Celui qui garde ma parole sera affranchi. » Parce que cette libération-là, Dieu le fait progressivement. Et il veut le faire dans nos vies, en 2015, encore un peu plus. Amen. Il veut le faire dans vos couples. Il veut le faire dans les relations au travail. Il veut le faire dans votre relation avec Dieu. Il veut le faire dans votre gestion de vos finances personnelles, il veut le faire dans votre manière de vivre, votre santé, de prendre soin de votre santé, il veut le faire dans vos amitiés, il veut le faire dans les relations, dans l'Église, il veut le faire dans votre voisinage, il veut amener la lumière de l'Évangile à travers votre témoignage dans votre voisinage, il veut le faire dans nos relations dans l'Église, que nos relations dans l'Église soient des relations qui apportent cette lumière de grâce, de sainteté, de libération qu'on trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut faire en nous en 2015. Il veut nous affranchir davantage. Il veut apporter cette lumière libératrice davantage encore dans nos vies. Parce que lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il est entièrement libéré du péché et il sera de plus en plus libéré du péché. C'est super important dans la vie chrétienne de comprendre cette espèce de paradoxe dynamique de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Je suis entièrement pardonné, je ne suis plus redevable au péché. Le péché n'a plus de domination, il n'a plus le droit de réclamer que je suis esclave du péché. Mais en même temps, comme Paul nous le dit dans Romains 6, j'ai hâte de voir Romains avec vous. Comme Paul nous le dit dans Romains 6, Romains 7, Romains 8, progressivement, je suis aussi libéré du péché, parce que je n'ai plus à répondre au péché. Et donc Jésus, cette année, en 2015, veut apporter plus de lumière dans vos vies, dans ma vie. Il veut nous affranchir davantage. On commence l'année 2015 et vous avez un mois. Je vais être concret ce matin. On commence l'année 2015, vous avez un mois. Jusqu'aux trois prochains dimanches pour chercher la face de Dieu. Pour identifier des domaines où Dieu est en train de travailler dans vos vies. Voyez-vous, je sais, il y a toujours, à chaque début d'année, il y a des débats sur les résolutions. Cette semaine, j'ai publié sur Facebook les 70 résolutions de Jonathan Edwards. Il était sage, lui, il ne prenait pas des résolutions du Nouvel An, il prenait des résolutions à vie. 70 résolutions qu'il a adoptées pendant l'année de ses 19 ans. Et puis qu'il a décidé de relire à chaque semaine jusqu'à sa mort. Intense, hein? Ce matin, je ne vous parle pas vraiment de résolution. Personnellement, j'y crois. J'aime ça faire ça. Mais ce n'est pas vraiment ça dont je vous parle ce matin. Parce qu'une résolution, c'est quelque chose, une décision que je prends par moi-même. La démarche dans laquelle on vous invite pendant tout le mois de janvier commence par l'écoute avant d'aller vers une résolution. Donc, vous avez tout le mois de janvier pour chercher la face de Dieu dans la prière, pour consulter des gens autour de vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, on vous encourageait à faire ça. Moi, je vous mets au défi d'aller voir cette semaine des collègues de travail, des amis au travail, des gens dans votre famille, d'aller voir vos enfants. Ils sont tellement sages, des fois, nos enfants. Tellement perspicaces. D'aller les voir, d'aller voir votre épouse, votre époux, des amis. D'aller dans la prière, de lire la parole en disant, qu'est-ce que je pourrais travailler cette année en 2015? Des choses très concrètes. Pour que lorsqu'on arrive à la fin de l'année 2015, je puisse dire, par la grâce de Dieu, par sa puissance, je suis plus comme Jésus. Et c'est vrai, Dieu va le faire de mille et une manières, à travers le quotidien, toutes sortes de circonstances, Dieu va le faire. C'est 100% vrai. On n'est pas là pour dicter à l'Esprit comment il va travailler au quotidien. Mais en même temps, on est là pour écouter l'Esprit Saint. On est là pour chercher cette plénitude de l'Esprit où je veux obéir à l'Esprit. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas tout à fait des résolutions dont je vous parle. Ça commence par l'écoute. L'écoute de Dieu. Par une journée que vous mettez à l'écart pour prier, pour jeûner, si c'est possible, ce serait merveilleux. Par des petits moments où vous dites, je vais aller dans la prière, j'ai une feuille blanche devant moi, j'ai lu les Béatitudes, j'ai lu le Sermon sur la montagne, j'ai lu Jean, j'ai lu Matthieu 1 à 8, et puis je mets une feuille blanche devant moi, je vais dans la prière, puis je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de ce que Dieu veut travailler dans ma vie. Je vous donne un mois pour consulter Dieu. Il sera bien libre de faire ce qu'il veut avec nous pour tout le reste de l'année aussi, d'accord? Mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez déjà une très bonne intuition. Partez pas avec ça. Partez pas avec ça tout de suite, d'accord? Figez pas ça tout de suite. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'être à l'écoute. Prenez le temps de laisser l'Esprit sanctifier ce domaine-là que vous voyez que l'Esprit est en train de travailler. Ayez l'humilité de consulter autour de vous. Allez-vous oser faire ça? Il y a des gens qui l'ont fait l'année dernière, qui ont consulté des collègues de travail. Là, peut-être vous avez peur, vous dites, « Ouais, mais j'irai pas le demander au même parce qu'il va me dire, « Ouais, mais écoute, la dernière fois, ça a comme pas changé grand-chose. » Fait que je la connais, ton histoire. Non, mais peut-être pas. Vous pourriez vraiment être béni de voir ce qu'il pourrait vous partager. Allez-vous avoir le courage de faire ça? Je vous mets au défi de faire ça. Vous avez un mois pour le faire. Consultez, cherchez comment Dieu est en train de vous travailler. Venez prier avec nous les trois prochains dimanches de 9h à 10h. Dimanche prochain, on prie sur ce sujet-là. On rend grâce à Dieu pour l'année 2014 et on commence à chercher la face de Dieu ensemble pour qu'il nous transforme à être comme Jésus. Quelques personnes vont aller prier à l'écart avec les anciens parce qu'ils sont malades et quelques-uns des pasteurs vont être avec eux pour prier à l'écart dans une autre pièce. Mais en assemblée ici, on va prier pour que l'Esprit nous montre comment devenir plus comme Jésus. Toutes sortes de domaines sont possibles, très concrets. Un aspect de votre caractère, joie, encouragement, douceur, être plus courageux, prompt à pardonner, gracieux, etc. Votre écoute de Dieu. Vous dites, c'est ça que l'Esprit est en train de me monter, qui veut travailler. Comment je veux prendre du temps avec lui, simplement, tous les jours, être à l'écoute de Dieu. Votre vie de prière, vous voulez annoncer l'Évangile plus régulièrement. vos finances personnelles, votre gestion des finances, vous dites, il y a quelque chose, l'Esprit m'a montré, il faut travailler ça cette année. Vos amitiés, cultivez des amitiés pour sortir de l'isolement. Votre intégrité au travail, votre leadership au travail, votre temps dans la parole de Dieu en famille. Conduire vos enfants dans la parole davantage. Votre temps de couple de qualité. Communication dans le couple, discipline dans mes travaux scolaires. Votre alimentation. Vous savez, à quelque part, qu'il y a une idole là-bas qui s'appelle glucose ou je ne sais pas quoi, moi. Vous voulez être des iconoclastes. Vous allez fracasser ces idoles-là cette année par la grâce de Dieu. L'exercice, l'amour en action pour mon prochain. Les possibilités sont infinies. Et avant de penser à faire des résolutions, commencez par consulter Dieu, chercher la face de Dieu. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de Dieu pour voir ce que Dieu a commencé à adresser dans vos vies. Et tout simplement, sans grande prétention, en nous appuyant sur Dieu, nous voulons être tout simplement plus comme Jésus. Est-ce que vous pouvez retenir ça pour 2015? Tout simplement plus comme Jésus. C'est mon ambition en 2015. Ah, j'ai plein de rêves, j'ai toutes sortes d'affaires que je voudrais pouvoir réaliser. J'ai des projets, j'ai toutes sortes de choses sur mon cœur, mais au centre, au cœur de tout ça, je veux tout simplement être plus comme Jésus en 2015. C'est ça que je désire. Parce que Dieu veut former Christ en moi. Dieu s'est engagé à former Christ en moi, dans sa grâce, dans sa bonté. Et je veux terminer avec une idée super importante. Lorsqu'on parle d'être centré sur l'Évangile, des fois, ça sonne théorique tout ça, hein? Mais laissez-moi vous montrer ce matin comment on va être centré sur l'Évangile en cherchant à être plus comme Jésus. Une des premières choses qu'on veut réaliser, c'est que même si chacun d'entre nous, on veut être plus comme Jésus, on veut garder à l'esprit qu'il y a, dans le fond, personne qui est comme Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut tous être plus comme lui, sachant en même temps qu'il n'y a personne qui est comme Jésus, parce qu'il est incomparable. Et donc, ce n'est pas qu'on aspire à devenir des dieux le Fils, mais on veut être davantage à l'image du Fils de Dieu. Mais personne n'est vraiment comme lui. Être centré sur l'Évangile, c'est me rappeler premièrement qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. On lit dans l'Apocalypse, chapitre 1, le dernier livre de la Bible, cette description absolument extraordinaire qui nous rappelle que personne n'est comme Jésus. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, premier ressuscité, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, on parle de Jésus encore, percé sur la croix par cette lance et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui parce qu'il est Dieu. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Comme Julie nous l'a lu tout à l'heure, avant qu'Abraham fût, je suis. Personne n'est comme Jésus. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Dieu incarné, Dieu fait homme. Et je veux tourner mes regards vers lui, parce que ce n'est pas sur moi que je m'appuie. Je veux être plus comme Jésus en m'appuyant sur lui. C'est son œuvre en moi qui va faire toute la différence. Et lorsque je perds ça de vue, je deviens un religieux qui prend des résolutions du nouvel an et qui, par effort personnel, va essayer de devenir plus comme Jésus. Mais personne n'est comme Jésus. Parce que c'est lui notre salut. C'est lui qui a rendu possible cette grâce qui nous est offerte. Si vous étiez avec nous lorsqu'on a fait cette courte série d'Esprit de Noël, on a lu ce passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 29 à 32. Et j'aime la manière que Siméon s'exprime lorsqu'il voit l'enfant Jésus qui est dans les bras de ses parents. Voici ce qu'il dit. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Voyez-vous, Jésus n'a pas seulement pourvu à notre salut. Jésus est notre salut. Mon salut, c'est pas simplement l'œuvre qu'il a fait à la croix. Mon salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est mon salut. Et c'est lui qui apporte cette lumière pour les nations. Cette lumière qu'il a commencé à apporter dans nos vies. Le jour où j'ai saisi son œuvre à la croix, il continue à l'apporter dans nos vies au fur et à mesure que je saisis sa gloire et sa grâce, sa grandeur, sa bonté, ses bénédictions. Il est notre salut. Et donc, si en 2015, on grandit chacun d'entre nous, tout simplement un peu plus comme Jésus, ça ne sera pas parce qu'on va s'appuyer sur nos propres forces. Ce n'est pas parce qu'on va se donner des petits trucs, on va l'écrire par-ci, par-là, puis « Go, go, go! » C'est parce qu'on va s'appuyer sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. On va s'appuyer sur sa grâce pour nous pardonner jour après jour après jour lorsqu'on va avoir manqué d'écouter l'Esprit dans la journée. Puis on va arriver au coucher le soir, prenant quelques notes comme des fois certains le font, puis faire juste un bilan avant de me coucher. Puis je dis, « Oh Seigneur, j'ai manqué là. Ton Esprit est en train de me parler, je le voyais bien. Tu étais en train d'adresser ce que tu adresses dans ma vie depuis déjà plusieurs mois, puis j'ai manqué de t'écouter, Seigneur. » Mais je sais que ce moment est un moment de grâce parce que tu montres ma faiblesse et tu me rappelles ta grâce. Passage qu'on connaît tous très bien, j'espère. Et si ce n'est pas le cas, c'est votre passage en 2015. Si vous ne connaissez pas les prochains versets que je vais vous lire, ma prière, c'est que ça devienne vos versets 2015. Parmi les plus précieux de toute la parole de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En 2015, je ne veux pas entrer dans les œuvres de Yannick. En 2015, je veux entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi en Jésus-Christ. Et tout ce qu'il y aura de bon comme transformation dans ma vie, là où je ressemblerai davantage à Jésus-Christ, ce sera une opération de sa grâce. Toutes ces fois où mon cœur sera bien disposé à chercher la sainteté, à chercher le bien, ça sera encore une opération de sa grâce. Toutes les fois où mon cœur sera rempli de l'Esprit, et je dirai, oui Seigneur, je prends plaisir à la sainteté, je prends plaisir à obéir, je prends plaisir à te ressembler davantage Jésus, ça va être une opération de sa grâce, je veux entrer dans ses œuvres. Prenez le mois de janvier pour prier, pour chercher la face de Dieu. Pour que Dieu vous montre ce qu'il veut transformer dans vos vies par sa parole. Allez lire les Écritures, lisez les Évangiles, mais lisez toute la parole, priez. Afin qu'à la fin de l'année 2015, on soit tous un peu plus comme Jésus. C'est un peu spécial, ce matin on commence avec le repas du Seigneur. On aime le premier dimanche du mois prendre le repas du Seigneur et j'ai demandé la permission de conduire ce moment-là ce matin. C'était quelqu'un d'autre qui était à l'agenda, mais je voyais tellement la direction de Dieu dans le fait qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur alors qu'on est en train d'adresser ça. Le repas du Seigneur, c'est, C'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Ça s'est pris dans le contexte de la Pâque. Les Juifs célébraient la Pâque une fois par année, sacrifiaient un agneau pour se rappeler la grâce de Dieu envers eux alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Cet agneau sacrifié était un symbole de la grâce de Dieu. Et lorsque Jésus prend ce dernier repas avec ses disciples avant d'être arrêté, avant d'être crucifié, il vient expliquer, il vient mettre en lumière, comme les Juifs ne l'avaient jamais compris, ce que représente en réalité la Pâque. La Pâque, avec tous ces siècles où année après année, des Juifs sacrifiaient des agneaux, était simplement un symbole qui annonçait un sacrifice parfait, celui que Jésus-Christ allait accomplir en s'offrant lui-même. C'est ça que ça représentait. Et donc Jésus, lors de ce dernier repas, leur dit, « Voici, ce pain qu'on prend ensemble, ce vin qu'on prend ensemble, représente mon corps et mon sang. Mon corps qui est brisé sur la croix pour vous. Et celui qui croit dans ce sacrifice, celui qui croit que cette mort sur la croix n'était pas simplement un beau message, mais vraiment une porte de salut, une source de pardon que Dieu veut t'accorder à toi. Celui qui comprend, qui saisit cela par une révélation de Dieu, comprend le sacrifice à la croix de Jésus, c'est pour mon salut personnel. À celui qui saisit cela, la vie éternelle est donné. Il entre dans une nouvelle vie. Et ce matin, je trouvais tellement approprié qu'on commence l'année 2015 en prenant le repas du Seigneur. Parce que des fois, lorsqu'on fait des bilans comme ça, puis on regarde en avant, on manque de foi. On manque de foi parce qu'on regarde à nous-mêmes. On dit, Seigneur, j'avais plein de bonnes intentions au début de l'année 2014, mais regarde mon infidélité, regarde comment j'ai été boqué. Regarde comment j'ai une tête de cochon en 2014. Puis, à quoi bon, Seigneur? Vous auriez vraiment raison. Vous auriez vraiment raison de réfléchir comme ça. Si votre salut dépendait de vos œuvres, vous auriez vraiment raison. Si cette transformation reposait sur vos épaules, vous auriez raison d'être découragé. Mais si vous avez compris la Pâque, si vous avez compris le repas du Seigneur, si vous avez saisi l'Évangile, vous êtes absolument dans l'erreur. Absolument dans l'erreur. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ va vous transformer davantage en 2015. On va aller ensemble dans un chant. Les éléments vont être distribués. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas saisi la grâce de l'Évangile, sentez-vous libre de laisser passer les éléments. Méditez avec nous. Éphésiens 2, 8 à 10, vos versets pour 2015. Mais si vous avez saisi cette grâce, prenez les éléments et dans vos cœurs, commencez à rendre grâce à Dieu qu'en 2015, votre transformation ne repose pas sur vous-même, mais sur Jésus-Christ. Amen. Sur Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton amour et ta grâce. Je bénis, Seigneur, pour cet amour qui t'a conduit à quitter ton ciel, à venir sur cette terre, à être ce Fils fidèle comme nous ne le serons jamais, Seigneur, sinon par l'œuvre que tu fais en nous, Seigneur. Ce Fils qui résiste aux épreuves, qui est tenté par moments, qui est rejeté par les hommes, mais qui demeure fidèle jusqu'à la croix. Seigneur Jésus, tu es tout ce que nous voulons être. Et tout ce que nous ne pouvons être sans toi. Mais tu t'es rendu jusqu'à cette croix, Seigneur. Et tu as été fidèle dans les tourments de la mort, tu t'es écrié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que tu as été maudit sur cette croix, Seigneur. Tu as été fait péché pour nous. Sois béni, Seigneur. Et Seigneur, c'est sûr, cette œuvre de grâce et de bonté que nous nous appuyons pour espérer en toi, pour être transformés en 2015, tout simplement un peu plus comme toi, Jésus. Un peu plus comme toi, Jésus. Rappelle-nous ta grâce ce matin, Seigneur. Rappelle-nous tes bontés. Seigneur Jésus, que nous prions.